Vous êtes sur RTL.
.fr.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme en ce samedi matin. Nous voilà bien vous accompagne de 9h15 à 10h et promet de vous informer, de vous divertir et de cultiver votre bonne humeur. C'est donc parti pour 45 minutes de conseils, conso, déco et gastro. Ils sont appréciés parce qu'ils sont pratiques. Les pains de mie, pains pour burgers, bagels et hot-dogs industriels fleurissent les rayons de nos supermarchés. Alternative à la traditionnelle baguette de boulangerie, ces pains préemballés sont consommés par un Français sur deux. Mais est-ce que la qualité nutritionnelle et sanitaire est au rendez-vous? Réponse dans un instant avec Patricia Chiropoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs. Elles font souffler un esprit champêtre et bohème dans nos maisons. Les fleurs séchées et leur style suranné sont en vogue. En bouquet, sous cloche, en guirlande, elles sont déclinables à l'infini. Mais quelles fleurs choisir et comment les faire sécher soi-même? Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, nous accompagne à travers champs ce matin. Et puis avec le retour de la cuisine traditionnelle, le gibier, eh bien ce n'est plus ringard. Qu'il soit sauvage ou d'élevage, le gibier change nos habitudes et réveille nos papilles. Cuisiner du gibier vous tente, mais vous n'en avez pas l'habitude? Eh bien, comment le choisir, le préparer, l'accompagner? Réponse dans un instant avec Ligori Lecomte de cuisineaz.com. Le pain de Soprano, vous ne connaissiez pas? Eh bien voilà, nous voilà bien, vous l'aura fait découvrir ce matin. Patricia Chiropoulos, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste en charge de l'alimentation à 60 millions de consommateurs. Alors Patricia, un Français sur deux consommerait régulièrement du pain industriel préemballé du type, je dirais, pain de mie. Est-ce que c'est une consommation en hausse?
Oui, oui, c'est vrai. Depuis quelques années, ça, tous ces pains un peu spéciaux augmentent, enfin les pains préemballés, comme on dit. Et puis en plus, le confinement n'a pas freiné cette hausse. Hein. C'est même encore mieux pour tout ce qui est type bagels ou hot dog, parce que ça permet de faire soi-même. En fait, on a l'impression un peu de cuisiner, parce qu'on va rajouter ce qu'on veut dedans.
Voilà, et de faire du mieux. Mais on va voir avec vous si c'est vraiment du mieux, ou en tout cas du plus pratique, même je pense aussi au télétravail, hein, quand on est chez soi et qu'on déjeune chez soi, eh bien on a tendance peut-être à refaire soi-même ce que l'on achetait d'ordinaire dans le commerce. Il existe plusieurs pains de mie. Il y a des natures, il y a des bio, des briochés aux céréales, fibres, sans gluten, sans sel, au blé complet. Bref, comment est-ce qu'on s'y retrouve et lequel choisir, Patricia?
Alors, déjà, tout dépend un peu de ses exigences et de ses goûts. Alors, par exemple, sans gluten, normalement, il n'est utile qu'à certaines personnes qui souffrent d'une intolérance au gluten. Donc, c'est peut-être pas la peine d'aller chercher ça. Le bio, en revanche, effectivement, ça marche de mieux en mieux. Hein. On sait que les consommateurs, avec le confinement, recherchent plus de qualité. Donc, ils vont s'orienter vers du bio ou des céréales, du blé complet. Donc, c'est un peu aussi les exigences et puis aussi le prix qu'on veut y mettre. Hein, parce que, plus c'est un peu spécial, plus c'est un peu cher.
Alors, est-ce que c'est meilleur? On va y revenir, mais quels sont les principaux défauts de ces pains industriels? Parce que on parle de pains qui sont parfois trop salés ou très sucrés, il n'y aurait pas assez de fibres, trop de conservateurs qui feraient grossir. On en est où en fait dans votre enquête?
Alors, le gros point noir, en fait, c'est le sel. Ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais vraiment, tous les pains sont trop salés, à l'exception, on va dire, d'un ou deux, hein, des marques qui se veulent un petit peu diététiques, et encore. Sinon, c'est-à-dire qu'on est, en gros, à plus d'un gramme par 100 grammes. Or, on sait que les recommandations officielles, c'est 5 grammes par jour. Hein. Donc, vous voyez, avec quelques tranches, on peut déjà arriver au moins au quart de recommandations. Donc, et là, dans nos 30, à peu près nos 30 références, ils sont tous au-dessus d'un gramme. Donc, c'est clair. Quel que soit, que ce soit du pain de mie, du pain bagel, et encore plus d'ailleurs les pains un peu hot dog. Voilà, donc ça, c'est le gros point noir. Le sucre, pas trop. Bon, ça va. Alors aussi, vous avez cité pas assez de fibres. Là aussi, c'est un petit peu malheureux parce qu'on achète du pain, on se dit c'est des céréales chic, on va avoir des fibres. Eh bien non, en général, c'est assez faible en fibres. En tout cas, bien en deçà de ce qu'on pourrait espérer de produits céréaliers.
Voilà. Et bio ou pas bio, ça ne change rien hein, à la donne dans ces cas-là.
Hein. Et non. Au côté de pesticides, oui. Mais par contre, sur la fibre, dans ça, les teneurs ne changent pas que ça soit bio ou pas.
Alors, vous parlez justement de pesticides. Est-ce qu'ils peuvent contenir des résidus de pesticides?
Et oui, ouais, donc nous les avons recherchés. Alors, bon, on va dire que ce n'est pas dramatique, puisque on a retrouvé dans quasiment tous les pains, hein, ça déjà. Mais c'est normal, puisque, entre guillemets, c'est normal, parce que c'est de la farine de blé. Or, oui. Le blé est cultivé notamment avec des pesticides, et ensuite, il y a aussi le stockage qui nécessite aussi des insecticides. Mmh. Donc, forcément, on va retrouver des résidus, mais tous ceux qu'on a retrouvés sont en deçà de la limite autorisée. Donc, on va dire que c'est une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle.
Mais on peut les repérer quand même, les pesticides, sur l'étiquetage des produits, ou est-ce que finalement, ça n'apparaît pas du tout ?
Eh ben non, malheureusement, ouais. Sauf le bio, normalement c'est sans pesticides, ou en tout cas sans pesticides de synthèse. Donc ça déjà c'est une garantie, et effectivement dans nos résultats, les produits bio sont moins contaminés, heureusement d'ailleurs. Hein.
Alors on va distribuer les bons et les mauvais points dans un instant, mais auparavant, quels sont les effets, Patricia Chiropoulos, sur notre santé si on en consomme régulièrement, voire trop ?
Au début, c'est surtout le sel. En plus, il peut y avoir des pesticides. Encore plus, c'est que ça n'apporte pas la satiété. Comme il n'y a pas assez de fibres, hein, au bout de quelques heures, on aura faim.
Bon, on y va, on distribue les bons et les mauvais points. Les marques de pain de mie qui s'en sortent pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs ?
Alors, pour les pains de mie, bon, il y a donc une marque nationale, voire deux, qui s'en sortent plutôt bien. Donc là, on est plutôt dans les marques nationales et les produits bio qui sont en tête du palmarès pour les pains de mie. Cela étant, une autre marque nationale très connue arrive totalement à l'autre bout du tableau parce qu'elle contient du sel et elle est aussi contaminée en pesticides. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de règle absolue. Mais les grandes marques s'en sortent un petit peu mieux, effectivement, que les marques de distributeurs pour les pains de mie aux céréales, en tout cas.
Alors, quelles sont ces marques ? Vous pouvez nous les donner, Patricia ?
Je peux vous en donner une ou deux. Allez, en gros, la première, c'est Jacquet. Et la dernière, c'est son concurrent direct. Voilà, Harry's.
D'accord. Voilà. Ah oui, Harry's, qui est la marque de tous les gamins, quoi, de tous les ados.
Oui, alors là encore, mais là, on l'a un petit peu déclassé, en tout cas, parce qu'il n'a pas la moyenne, parce qu'il est insuffisant sur le critère pesticide. On espérait en avoir un peu moins. Et bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste dans des limites raisonnables, mais il y a quand même trois résidus de pesticides.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un instant, Patricia Chiropoulos, parce qu'il y a les pains pré-emballés aussi, hein, on le disait en début d'émission, pour les burgers, les hot dogs et tout. Donc, on va y revenir. On va revenir aux pains au lait qui sont distribués aux petits à la sortie de l'école, puis les fameuses biscottes du matin. Vous allez nous donner des informations dans un instant, Patricia Chiropoulos. Vous l'avez compris, ce matin, dans Nous Voilà Bien, encore une fois, on vous informe et on se retrouve dans un instant. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Nous Voilà Bien sur RTL.
Avec Flavie Flamand.
Alors, on est tendance parce qu'on colle à la saison, hein, dans Nous Voilà Bien. En fin d'émission, on va parler pour la première fois dans cette émission justement du gibier. Comment le cuisiner avec Ligori Lecomte. On va parler des fleurs séchées parce que ça, c'est tendance, c'est joli. Et puis, on peut le faire soi-même avec Pierre Nesman. Mais pour l'heure, si vous avez du pain industriel dans vos placards, eh bien, c'est l'heure d'écouter Nous Voilà Bien et Patricia Chiropoulos. Patricia Chiropoulos, les pains pré-emballés pour burgers, hot dogs et bagels, ils sont passés aussi au scanner de 60 millions de consommateurs ?
Oui, 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 bah bien sûr, puisque ce sont des pains dont les Français sont assez friands.
Très tendance.
Hein, et oui, pour faire toute leur préparation, leur fait maison, entre guillemets. Et puis, c'est vrai que c'est pratique hein, et ça plaît beaucoup aux jeunes. Donc,
Alors, lesquels est-ce que vous pouvez nous conseiller ?
Les bio, enfin, en tout cas dans les pains pour burgers, parce que par contre, pour les bagels et hot dogs, il est difficile de trouver des références bio. On va dire qu'il y a une bataille entre certaines marques nationales et puis des marques de distributeurs comme Casino qui s'en sort aussi très bien.
D'accord. Et en marque nationale, je peux vous demander ?
Alors, c'est l'Angélus, c'est des bio.
Donc, et ça, c'est bien.
Ouais. Oui, bah voilà, les pains pour burgers, effectivement, en tête, ce sont les deux références bio qui s'en sortent bien.
Ok. Ouais. Les pains au lait industriels, vous savez, qu'on donne aux enfants ou qu'on grignote nous-mêmes en se disant « Oh, c'est tout petit, c'est tout mignon
!» On y met léger.
Exactement. On les fourre d'une petite barre de chocolat en se disant « C'est plus sain qu'un pain au chocolat acheté en boulangerie. » Alors
on s'en doute bien que c'est pas terrible. Là, c'est plutôt bourré de sucre et puis des sucres pas forcément de bonne qualité, hein. On trouve des sirops de glucose. Là, à la limite, on ne peut même plus parler de produits céréaliers puisqu'il y a des graisses. Donc, ce n'est franchement pas un produit intéressant pour les enfants. Autant, on le dit, mais autant prendre à la limite une baguette ou voir du pain de mie aux céréales qui a au moins l'avantage de contenir un petit peu de céréales et de mettre du beurre, du chocolat ou de la confiture.
Bon, et les biscottes du matin, alors ?
Il y a une espèce d'idée reçue comme quoi c'est bon pour les régimes. Pas vraiment, hein, parce qu'en fait, il s'agit de pain de mie déshydraté. Donc, finalement, c'est plus dense en calories. Enfin, plus dense. On va peut-être pas en manger des tonnes non plus. Ouais, mais ouais. Ça n'a pas un intérêt, en tout cas, pour la ligne. Pour les personnes qui surveillent leur ligne, franchement, autant prendre du pain. Ça va être justement plus... ça va mieux nourrir. Ça va apporter une meilleure satiété. Je suis désolée. Hein.
Non, mais vous faites très bien, justement. Non, mais là, ce matin, je suis en train de me rendre compte qu'on prévient nos auditeurs, et c'est le but de Nous Voilà Bien, et évidemment de 60 millions de consommateurs. Mais en fait, la solution, c'est quoi ? C'est d'aller acheter du pain frais en boulangerie, en s'assurant peut-être auprès de notre boulanger qu'il est exempt de pesticides et d'additifs, ou alors on fait son pain soi-même, quoi.
Effectivement, il y a des très bonnes boulangeries, et c'est vrai qu'on n'a ni qu'une garantie, sauf qu'on n'a pas de garantie, au contraire, qu'il n'y ait pas d'additifs, parce que les boulangers eux-mêmes utilisent souvent des mélanges préparés. Il peut y avoir, par exemple, dans la baguette, 14 additifs sont autorisés, comme les émulsifiants.
Non.
Et les pesticides, sauf si vous achetez du pain bio, où là, vous avez une garantie.
Sinon... Bon, alors, je fais mon pain ou pas ? Moi, j'ai déjà essayé, c'est pas simple, mais c'est possible. Mais le mien était super fade. Alors, moi, il n'y avait pas de sel, au moins.
Mais au moins, vous pouvez doser ce que vous mettez dedans, vous pouvez choisir votre farine.
Merci beaucoup, Patricia Chiropoulos, de nous avoir éclairé de la sorte. 60 millions de consommateurs est en kiosque et vous livre donc toute une enquête sur le pain industriel. Merci, Patricia. À très bientôt.
Merci, au revoir.
Rien que quelques fleurs séchées, quelques pétales de roses.
Bonjour Pierre Lesman.
Bonjour Flavie.
Vous connaissiez cette chanson, Rien qu'une fleur séchée de Burns ? C'était dans les années 60-70.
Non, malheureusement, mais voilà, je la découvre.
On n'était pas nés. Merci d'être avec nous, Pierre Nesman. Vous êtes paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, mais également rédacteur en chef de l'émission Mission Vigitale diffusée sur M6. C'est en danse, les fleurs séchées, c'est tellement joli. Il paraît qu'il y a plus d'un million de publications sur Insta avec le hashtag Dried Flowers.
Depuis quelques années, certains fleuristes et des designers se sont effectivement emparés du sujet, ont un peu dépoussiéré l'esprit des bouquets secs de nos grands-mères pour en faire des bouquets tendance. Mais c'est vrai que ça correspond à une tendance de fond, hein. C'est la culture du recyclage, la culture du zéro déchet. Parce que c'est vrai, imaginez, vous recevez un bouquet de fleurs fraîches et puis au bout de 8 à 10 jours, eh bien, il passe à la poubelle. Donc c'est pas tout à fait dans l'air du temps. Aujourd'hui, le séchage des fleurs, ça permet d'adopter une attitude un tout petit peu plus responsable en prolongeant la durée des fleurs.
Dernièrement, Pierre Nesman, on m'a envoyé un bouquet de fleurs, et très joli bouquet, et en m'indiquant quelles étaient les fleurs que je pourrais conserver pour les faire sécher. Donc ça veut dire aussi que les fleuristes investissent, hein, je dirais quelque part, cette tendance du recyclage, et j'ai trouvé que c'était une démarche hyper intéressante. Quelle variété de fleurs justement on utilise pour un bouquet de fleurs séchées ?
Alors il y a deux grandes catégories de fleurs. Il y a d'abord les fleurs qui sont véritablement les fleurs que l'on va faire sécher, que nos grands-parents cultivaient dans leur jardin, que certains horticulteurs cultivent. Ce sont des fleurs annuelles, des plantes vivaces. Elles ont finalement des pétales assez coriaces, elles ont des textures, elles ont des réceptacles qui sont assez résistants et qui vont justement supporter le séchage et ne pas faner. Alors on pense tous à l'immortel, hein, qui porte très très bien son nom. Vous avez la monnaie du pape, le statis, la monnaie du pape, voilà ces petites pièces un peu nacrées, le gypsophile, le panico, l'amour en cage, vous les connaissez, vous savez, ce sont ces petites lanternes japonaises de couleur orangée qui tiennent très très bien une fois qu'elles sont sèches. Et puis il y a des fruits aussi, les fruits du pavot, les fruits de la nigelle de Damas, qui sont des fleurs que l'on va cultiver pour faire des bouquets secs.
Mais je peux en trouver dans mon jardin ?
Alors après, il y a une autre catégorie effectivement de plantes que l'on va trouver à la campagne et dans son jardin. On a évidemment le chardon, le carder des oiseaux, la tanaisie, l'ail d'ornement. Et puis quand vous allez au bord de la mer, vous avez l'amourette. Vous savez, ce sont ces espèces de petites graminées qui ressemblent à une crevette. Et puis il y a également la queue de lièvre, ces espèces de petits doudous tout soyeux, tout doux, qu'on va trouver en bord de mer.
Mais alors dites-moi, je fais comment pour faire sécher mes fleurs ?
Alors là, il y a deux techniques, mais il y en a une qui est essentielle. On va considérer que les fleurs que vous allez utiliser pour faire une composition, un bouquet sec, il ne faut pas les faire passer dans un vase avec de l'eau. Donc il faut directement les cueillir le matin à la fraîche. Il faut les cueillir lorsqu'elles sont bien épanouies, lorsque la couleur est bien marquée, les boutons bien ouverts. Et vous allez immédiatement les faire sécher. Vous les réunissez par 10 ou 12. Vous les suspendez dans une pièce obscure, aérée, relativement fraîche. Et vous laissez le séchage se faire naturellement et progressivement. Et au bout de quelques semaines, lorsque les pétales, lorsque les feuilles, les tiges vont avoir un aspect un peu craquant, ce sera le moment où vous pourrez composer votre bouquet.
D'accord. Si j'ai reçu un bouquet de fleurs fraîches, parce que vous disiez qu'il ne fallait pas que ça aille dans l'eau et que je veux faire sécher quelques fleurs, je fais comment ?
Mais une fois que vous avez que votre bouquet est fané, vous allez le défaire, le décomposer, le sortir de l'eau. Vous allez jeter évidemment les plantes qui n'ont pas gardé cet aspect, cette bonne tenue, et vous allez garder les autres. Et les autres, eh bien, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Vous allez peut-être avoir des roses, vous allez peut-être avoir du gypsophile, des graminées, des pieds d'alouette que vous allez pouvoir garder, et vous allez les faire sécher, comme je l'ai dit tout à l'heure, en les mettant tête en bas, en bouquet, dans un local un peu obscur, pendant quelques semaines, jusqu'à ce que la déshydratation soit complète.
Allez, on va se retrouver dans un instant, Pierre Nesman, parce qu'on a encore plein de questions à vous poser. On se demande si les fleurs ne vont pas perdre leur couleur. On se demande aussi comment, à un moment donné, composer ce bouquet de fleurs. C'est pas très simple, hein, finalement, les fleurs séchées. Ce sera dans un instant avec vous sur RTL. A tout de suite dans Nous Voilà Bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Faire. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Dans un instant, un lapin a tué un chasseur. On va parler du gibier avec Ligori Lecomte. Mais pour l'heure, allez, il y a des fleurs séchées partout, 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 partout. Et c'est Pierre Nesman qui nous explique comment faire. Pierre Nesman, votre nouveau livre, c'est « Mon jardin s'adapte au changement climatique » aux éditions de la Chaux Niesley. En tout cas, les fleuristes, et puis même nous, en tant que consommateurs de fleurs, eh bien, on s'adapte aussi à l'environnement, je dirais, et on ne gâche pas ce produit magnifique qu'est la fleur, parfois en le faisant sécher. C'est plus éco-responsable, on va dire. Vous nous expliquez il y a un instant que la méthode était, somme toute, très simple. Hein. C'est-à-dire, on fait un bouquet, on met les fleurs la tête en bas, dans un espace plutôt frais et un local aéré et obscur, et puis au bout de quelques semaines, notre bouquet est sec. Mais est-ce qu'il existe des techniques pour les faire sécher plus vite ?
Oui, alors effectivement, il existe ce qu'on appelle le gel de silice. Vous savez, quand vous achetez une paire de chaussures ou un sac à main en cuir, vous avez dans la boîte souvent un petit sachet. Oui. Alors on se demande ce que c'est. Ben c'est ça. C'est du gel de silice. En fait, ce sont des petits cristaux qui vont absorber l'humidité pour ne pas dégrader les produits. Et donc, on les utilise pour déshydrater, pour momifier quelque part les fleurs. Mais évidemment, il en faut des kilos et des kilos hein, pour pouvoir sécher un bouquet. Alors, ce gel de silice, en fait, on va le trouver dans des magasins de loisirs créatifs. Et on va pouvoir l'utiliser pour faire sécher des petites fleurs. Évidemment, on ne va pas pouvoir faire sécher de gros bouquets parce qu'il faut le mettre dans une boîte, mettre les fleurs, complètement ensevelir les fleurs sous ces cristaux et puis laisser quelques temps pour qu'ils se déshydratent. Donc, vous imaginez bien que c'est compliqué pour des gros bouquets, mais pour des petites fleurs comme des violettes ou des petites fleurs de collection que vous avez dans votre jardin ou que vous trouvez dans la campagne, eh bien, ça peut être une solution. Et surtout, ce gel, enfin, c'est pas vraiment un gel, hein, c'est des cristaux, il est réutilisable. Il va bleuir lorsqu'il va absorber l'eau, on le repasse au four, il reblanchit et donc on va pouvoir le réutiliser.
Bon, deux choses. On a toujours peur que les pétales s'abîment, chutent, parce que vous nous parliez de fleurs séchées qui craquent un petit peu. Et puis on a toujours peur de perdre la couleur. Donc quels sont les conseils que vous pouvez nous donner à ce sujet ?
Alors, pour que les pétales tiennent, déjà, c'est le séchage, hein, c'est la qualité du séchage. Il faut vraiment laisser sécher les fleurs progressivement dans des bonnes conditions. Après, on peut s'aider notamment d'un truc de grand-mère, c'est la fameuse laque. Ah. Cette laque qui permettait effectivement de tenir les cheveux de nos grands-mères.
La hennette.
Eh bien, et oui, et donc, on peut l'utiliser pour effectivement, quand on a des petites fleurs, ça peut les aider à se maintenir, à éviter de se désigrager.
Et si je veux garder la couleur, ouais.
Alors, la couleur, là, j'ai pas de solution. Il n'y a pas de solution.
Il y a quelque chose qui est compliqué, je trouve, mais bon, peut-être pas pour vous, mais en tout cas pour moi et peut-être certains de nos auditeurs, c'est de trouver le bon vase.
Il faut essayer de choisir un vase dont le col est assez étroit pour pouvoir justement maintenir l'ensemble des fleurs séchées pour qu'elles se tiennent, qu'elles ne partent pas dans tous les sens. Et puis, deuxième petit truc, eh bien, c'est de choisir un vase dans lequel vous allez mettre du gravier ou du sable pour le lester. Parce que si vous utilisez un bouquet un peu volumineux avec des graminées, je pense à des graminées entre autres, eh bien, le vase risque de se déstabiliser. Donc, il faut le lester avec du sable et du gravier, un petit peu comme l'eau le fait pour un bouquet de fleurs fraîches.
Alors, et rapidement, comment est-ce qu'on dépoussière les fleurs séchées ?
Alors, comment on les dépoussière ? C'est très simple. Il va falloir utiliser soit un sèche-cheveux ou un petit ventilateur pour les débarrasser effectivement des poussières qui ne sont pas très accrochées. Mais au bout d'un certain temps, il faut quand même reconnaître qu'il peut y avoir des petites toiles d'araignée, qu'il peut y avoir de la poussière qui s'accroche un petit peu plus. Et là aussi, au bout de quelques mois, mois, ça va vraiment dégrader l'aspect du bouquet. Dans ce cas, eh bien, on repart au jardin et on refait un petit bouquet de fleurs sèches.
Merci beaucoup pour tous ces conseils, Pierre Nesman. Merci d'avoir accepté notre invitation ce samedi matin. C'est à chaque fois extrêmement éclairant. Et vous nous avez appris beaucoup aujourd'hui. À très bientôt sur l'antenne d'RTL, Pierre.
À bientôt.
Merci
et bon week-end.
À vous. Bon week-end. Pour que vous l'ayez en tête toute la journée et tout le week-end. Voilà, merci qui ? Merci, nous voilà bien. Bonjour Grégory Lecomte.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du site cuisineaz.com, auteur culinaire. On va parler du gibier. Pourquoi ? Parce que commence en septembre la saison du gibier. Alors c'est quoi le gibier ? Ça désigne l'ensemble des animaux à plumes et à poils qui peuvent être chassés. Alors évidemment, la chasse, il y a des pour, il y a des contre. Je rappelle juste que c'est une activité qui est super encadrée. Les dates d'ouverture et de fermeture sont fixées chaque année par des arrêtés préfectoraux pour chaque département. Et puis que le gibier, on n'est pas forcément d'ailleurs obligé, j'irais, de s'adonner à la chasse, mais on peut aussi l'acheter, ce gibier, hein, Ligori.
Ah ben tout à fait, moi je serais incapable d'aller chasser, mais je peux prendre du plaisir à le cuisiner, tout à fait.
Alors quelles sont les espèces de gibier qui sont commercialisables? Où est-ce qu'on en trouve d'ailleurs?
Alors vous l'avez dit déjà un petit peu, c'est tout ce qui va être mammifère chassable, donc lapin, lièvre, chevreuil, sanglier, biche. Il y a aussi toute une partie avec des oiseaux où là il y a un peu plus de restrictions qui peuvent être temporaires ou locales, pour le canard, le pigeon, le perdrix ou même le faisan.
D'accord. Il existe un label de qualité en fait pour le gibier?
Oui, alors il y a un label gibier de chasse, Chasseurs de France, qui a été créé justement par la Fédération Nationale des Chasseurs, pour identifier les gibiers français et puis encadrer un petit peu tout ça.
C'est particulier, le gibier.
Oui, c'est un goût un peu plus sauvage, on va dire, un petit peu plus prononcé. Donc ça plaît beaucoup à certains et d'autres un petit peu moins.
Bon, vous allez nous donner des recettes dans un instant. Vous allez nous expliquer évidemment comment le choisir. Et puis ce fameux goût du gibier qui n'est pas si pratique. Alors l'idée pour nous, c'est pas d'avaliser forcément cette pratique, mais c'est de vous livrer des conseils de cuisine. Ligori Lecomte, on se retrouve dans un instant sur RTL et vous allez répondre à toutes mes questions. À tout de suite.
À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Cadeau pour vous. Je ne sais pas vous, Ligori, mais moi, je n'avais pas entendu ça depuis mes 8 ans, je pense. 6, 7, 8 ans.
Non, mais je sens qu'on va avoir du mal à s'en débarrasser.
Oui, mais c'est le but, vous savez. Il va falloir vous trouver une autre chanson pour la journée.
Exactement.
Bon, alors, vous nous l'avez dit, puisqu'aujourd'hui, on parle des espèces de gibier que l'on peut cuisiner. Vous nous avez expliqué qu'en tout cas, il y a un label, le label gibier de chasse pour identifier les gibiers français. Donc, il y a une forme de traçabilité sur le gibier. Il y a du faisan, il y a du chevreuil, du lapin, du sanglier. Elle n'est pas toujours simple à cuisiner. Quelles sont les qualités nutritionnelles et diététiques de la viande, du gibier? Est-ce qu'elle est facile à digérer?
Alors oui, en général, c'est une viande qui est dite très digeste et pauvre en matière grasse. Vous savez, ça court un petit peu plus que du gibier qui serait d'élevage.
Oui, évidemment.
Donc c'est une viande qui est moins grasse et puis c'est riche en phosphore, en potassium et en fer. Donc elle a toute sa place dans une alimentation équilibrée.
Pourquoi est-ce que la viande de gibier est si rouge?
Alors en fait, la vénaison, c'est comme ça qu'on appelle ce phénomène. En fait, c'est que le taux de fer, justement, on l'a dit juste avant, que le taux de fer était important. Le taux de fer, en fait, est deux fois plus important dans la viande de gibier. Donc elle a cette couleur beaucoup plus rouge, presque noire, et cette couleur plus foncée qu'une viande traditionnelle.
Comment est-ce qu'on choisit bien son gibier chez le boucher? Est-ce qu'il faut qu'il soit faisandé? Alors je vous dis ça comme quelqu'un qui s'y connaît, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire en fait. C'est quoi faisandé?
Alors en fait, faisandé, on va dire que la viande est plus maturée. Vous voyez, ça serait un autre terme. Donc forcément, plus elle va être maturée ou faisandée, plus elle sera puissante avec un goût accentué. La première chose, c'est d'abord de faire vraiment confiance à votre boucher. Il est là pour vous conseiller et ça sera le meilleur conseiller pour tout ça. Moi, je préfère choisir la viande assez jeune et assez jeune et fraîche. Pourquoi? Parce qu'elle aura déjà un goût un peu prononcé et voilà, je préfère prendre prendre comme ça. Mais après, voilà, on n'hésite pas aussi à la faire mariner dans du vin, des aromates pour pouvoir assouplir un peu tout ça.
Ah, ok. Justement, quels sont les gibiers qui sont les plus forts en goût et les plus doux?
Alors, pour tout ce qui va être plus doux, première étape hein, pour consommer du gibier, sûrement, ça va être le marcassin, hein, forcément, qui est un animal le plus petit que ses parents, le sanglier, le chevreuil aussi, ça sera beaucoup plus doux que le cerf, le faisan également, c'est une première étape pour manger du gibier. Et après, vous avez des animaux beaucoup plus gros, comme le cerf, comme le sanglier, on l'a dit, qui là seront du coup un peu plus sauvages, presque, ça laisse un petit peu d'amertume aussi en bouche, donc voilà, ça c'est pour les plus avertis.
Et vous parliez de mariner dans du vin et des aromates, bon ça ok, mais vous parliez aussi d'attendrir la viande, pourquoi elle est dure?
Oui, alors elle est un peu plus dure, donc ça va vraiment permettre d'atténuer aussi un petit peu ce côté prononcé, puis d'attendrir la viande. Alors, quand je vais de mettre des épices et du vin, moi, j'évite de mettre trop d'alcool fort, c'est, ça va agresser un petit peu plus la chair. Mais du vin, c'est très très bien, et des épices, on met plutôt de la graisse de canard plutôt que du beurre pour le cuisiner. Voilà, tout ça marche très très bien.
Et la cuisson, ça se fait comment? Ça se fait à la poêle comme un steak ou on le fait au four?
Alors, il y a plusieurs cuissons possibles. Des cuissons rapides, on disait, pour les viandes un peu plus jeunes, hein, à la poêle, par exemple, pour du marcassin ou du chevreuil. On peut faire des cuissons en cocotte pour des morceaux beaucoup plus longs à cuire, hein, comme un cuisseau de chevreuil. Mmh. On peut faire des cuissons lentes aussi, vous savez, sur un feu de bois, dans une cheminée, pour un sanglier. C'est très, très bon aussi.
Okay.
Donc, il y a plusieurs choses à faire.
Ça se cuisine comme une autre viande, quoi, en fait. De ce que
j'entends. Oui, voilà, il n'y a vraiment pas de barrière à se mettre. Ça se cuisine facilement, comme d'autres viandes.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sauces avec le gibier aussi.
Oui, alors là, il faut essayer de trouver un petit peu un équilibre, une sauce qui soit forte et douce à la fois. On connaît souvent la sauce Grand Veneur, par exemple, qui est un excellent exemple pour accompagner les gibiers.
C'est quoi? Il y a quoi dedans?
Alors là, en fait... Alors, vous allez avoir votre garniture aromatique, on va la mouiller au vin rouge, et puis dedans, on y rajoute un fond gibier, et c'est terminé avec une gelée de groseille ou d'érelle,
vous
voyez, pour vraiment adoucir ce côté un peu puissant, pour jouer sur le côté un petit peu sucré-salé, ça marche très très bien avec le gibier.
Bon, on accompagne de légumes, genre champignons, oignons, légumes racines, et puis
voilà,
des fruits aussi, hein, pommes, poires.
Oui, ben voilà, on le disait juste avant, là, avec les groseilles dans la sauce Grand Veneur, tous les fruits comme la pomme, la poire pochée, ça marche très très bien aussi avec le gibier, donc voilà, on n'hésite pas à en mettre.
Ligorie Lecomte, question avant qu'on passe à la recette. Est-ce qu'on peut s'empoisonner avec du gibier sauvage? Est-ce qu'il faut faire attention?
Alors oui, il faut faire attention notamment à une maladie, à un petit parasite qu'on appelle la trichinellose, qui est un parasite en fait qui est dans le gibier qu'on pourrait consommer quand il n'est pas assez cuit. Bah, ça peut aller du vomissement, aux nausées, avoir un petit peu de fièvre, mais ça peut aller jusqu'à d'autres complications un peu cardiaques et neurologiques.
Donc il faut faire quoi alors? Il faut vraiment l'acheter dans une boucherie?
Oui, et suivre un peu la traçabilité, sûr que chez votre boucher, vous serez garant de la qualité et de tout ce qui est traçabilité. Voilà, pas faire n'importe quoi quand même avec le gibier.
Bon, on fait quoi comme recette aujourd'hui?
Alors, moi, je peux vous en proposer plusieurs, mais notamment une qui va être un peu comme un bourguignon, mais qu'on va faire avec de la viande de sanglier. Vous voyez, qu'on va un petit peu revisiter.
Donc, c'est la daube de sanglier corse?
C'est ça, exactement.
Mais je suis pas obligée d'aller chercher mon sanglier en Corse quand même.
Non, bah ça va vous coûter cher l'aller-retour en plus là, juste pour amener une épaule ou un cuisseau de sanglier. Donc vous pouvez le faire en trouvant par ici. Donc ce qu'on fait en fait, c'est que la veille de la recette, ça c'est important, on va faire mariner notre viande. Donc là, j'ai pris du sanglier, du cuisseau ou de l'épaule. Pourquoi? Parce que c'est des morceaux qui vont cuire longtemps. Ils seront aussi moins chers. Mais souvent, c'est un petit peu le cas. Les viandes qui restent plus longtemps à cuire, elles sont un petit peu moins chères. Donc, ces viandes-là, coupées en gros morceaux, avec des carottes, des oignons, un petit peu d'ail, du thym et du laurier, je vais les mettre à mariner dans une bière corse à la châtaigne. On va mouiller tout ça et on place au réfrigérateur toute la nuit. Le lendemain, voilà, on place ça au frigo. Et le lendemain, en fait, vous allez égoutter la viande, mais surtout, vous gardez la marinade.
Ouais.
On va servir juste après. Et dans une cocotte, on va faire dorer cette viande avec un peu de lardon fumé. Alors surtout, à la place du beurre, là, je mets du gras de canard. Comme ça, on reste vraiment dans ce côté un petit peu plus sauvage. Et le goût n'en sera même que meilleur pour cette recette. Donc sur feu vif, on fait dorer tout ça, on sale, on poivre, et on ajoute un peu de farine pour singer la préparation. Vous savez, c'est ce qui va épaissir après votre sauce. En fait, la farine cuit dans votre casserole. Puis quand on rajoutera du liquide, ça va épaissir gentiment. Et c'est ce qui vous liera la sauce de la recette.
Okay.
Une fois que ça s'est singé, on rajoute toute la marinade avec les légumes pour couvrir entièrement la viande. On ajoute un petit peu de concentré de tomate. Et là, on va couvrir. On fait cuire à feu doux. Alors, le minimum, ça va être au moins 2 heures. Hein. Vous vérifiez de temps en temps. Si ça manque un petit peu de liquide, vous rajoutez soit un petit peu de Vercors, soit un petit peu d'eau pour remettre à niveau. Et puis, quand la viande sera vraiment très tendre et qu'elle se délie parfaitement, c'est que ce sera terminé. Et puis après, vous aurez le choix de servir ça avec des pommes de terre, des pâtes, libre à vous. Puis on l'a dit tout à l'heure, hein, légumes racines, ça marche très bien, quelques châtaignes en plus, ce sera parfait.
Merci beaucoup Liguori Lecomte pour cette recette de daube de sanglier corse. Liguori, merci. Je rappelle que vous êtes chef du site cuisineaz.com et que vous êtes également auteur culinaire et vous nous avez appris plein de choses aujourd'hui. À bientôt
merci
sur RTL.
Merci à vous,
salut Liguori, merci à vous. À propos de merci, je voudrais remercier également Julien Bonneau qui est le producteur de cette émission, pour tout ce qu'il fait pour Nous Voilà Bien, dont c'est déjà la fin. Nous Voilà Bien, vous n'avez pas tout retenu de cette émission, eh bien rendez-vous sur l'appli RTL ou sur Radio Player France pour le replay. Je vous donne rendez-vous moi lundi dès 20h pour Jour J, c'est le nouveau magazine qui s'intéresse aux événements qui ont marqué notre mémoire collective. Vous verrez, il y a plein de choses, vous pouvez aller sur nos réseaux pour découvrir justement les réseaux d'RTL, le contenu de cette nouvelle émission 20h sur RTL Jour J. À la semaine prochaine, 9h15 10h pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Juste après, les infos, RTL continue de vous régaler. Prenez bien soin de vous, passez un bon week-end. À l'écoute d'RTL, bien sûr, je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, nous.